Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte. Vous la connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo @lalotte. On y découvre son quotidien d'infirmière et aussi de maman de 5 enfants qu'elle élève avec son mari. J'aime beaucoup son compte parce qu'elle nous y montre sa vie et sa parentalité sans chichi, sans vendre du rêve et avec toujours beaucoup d'amour. Ça va justement être le sujet de cet épisode où elle va nous parler de sa parentalité, ou plutôt de ses parentalités, de ses allaitements, de l'arrivée de différents bébés, des injonctions, du lâcher-prise, de l'ambivalence qu'on peut ressentir dans certains moments, dans sa maternité, dans sa parentalité. Et pour commencer tout de suite, eh bien, je vais tout simplement lui demander comment sa parentalité a commencé. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Alors moi, c'était il y a 11 ans maintenant. Il y a 11 ans, voilà, j'étais enceinte de mon premier enfant et l'aventure de la maternité démarrait. Elle démarrait et puis 11 ans après, voilà, j'en ai 5 enfants à la maison et c'est génial. C'est génial. Et c'est vrai qu'en 10 ans, donc en 11 ans plutôt, j'ai complètement évolué dans ma maternité. Il est évident que je ne suis absolument pas la maman que j'étais. J'ai évolué forcément avec l'expérience de mes enfants, avec les informations que j'allais chercher de ci, de là, avec les groupes d'échange, notamment sur Instagram. Et voilà, j'ai évolué. Alors, je ne serai pas la même maman dans 10 ans que je le suis aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial. Rien n'est figé.
Et comment ça s'est passé il y a 11 ans, pour le coup? Tu découvrais totalement la parentalité?
Je découvrais tout.
Ouais.
Je découvrais tout. Quand j'ai su que j'étais enceinte, donc c'était j'espérais être enceinte, j'avais peur. Ça c'est un peu comme je pense toutes les femmes peut-être au début, on ne sait pas si on peut avoir des enfants avant d'avoir cette fameuse deuxième barre. Donc je crois que c'était mon angoisse première. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, c'est arrivé très vite. J'étais la plus heureuse et tout de suite après les grosses angoisses là. Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que et puis en fait toutes les questions auxquelles on se pose, on a les réponses au fur et à mesure, en fait. C'est la vie qui nous les donne, hein. c'est pas les personnes. Et voilà, j'ai commencé mon expérience en maternité en prenant beaucoup de conseils. Des conseils qui venaient à moi, je ne les demandais pas forcément, mais ils venaient à moi, de la famille, des amis, des voisins. Et voilà, j'ai commencé comme ça, en n'ayant absolument fait aucune recherche, tu vois, j'étais pas dans les livres, j'étais pas pour moi, la maternité, c'était quelque chose de naturel et tout allait venir à moi naturellement, spontanément. Bon, pas du tout, mais bon, et ouais.
Et qu'est-ce qui est venu spontanément alors?
Quelque chose d'hyper basique, bateau, mais l'amour que j'ai ressenti pour mon bébé, enfin, intra-utéro, des premiers moments de la grossesse et démultiplier évidemment l'accouchement. Qu'est-ce qui est venu naturellement? Écoute, l'accouchement. J'ai eu un accouchement par voie basse, donc voilà, c'est tout ce que j'espérais. Après, il n'y a pas grand-chose qui est venu naturellement, hein. Ni l'allaitement. Ah si, en fait, moi, elle a dormi tout de suite, donc toutes ces problématiques qu'engendrent la fatigue, qu'engendrent les réveils de bébé, tout ça, j'avoue ne pas avoir connu ça pour ma première. La chance du débutant, parce que c'est pas confirmé pour la suite. Et j'étais pas du tout dans le cododo, dans le portage, tout ce que je connais aujourd'hui. C'était pas quelque chose qu'il fallait faire, parce qu'on me l'avait dit, ça, par exemple, tu vois, le cododo, oh non, ne fais jamais ça. Non, là, tu te mets dans un truc, tu t'en sortiras plus jamais. Et puis, l'allaitement qui, je pensais, allait couler de source, allait être complètement naturel, parce que voilà, j'avais jamais entendu parler de quelqu'un qui avait galéré pendant l'allaitement. Parce que la seule chose que je pouvais entendre, c'était « Ah bah moi, j'ai pas allaité parce que j'avais pas de lait, parce que mon lait n'était pas bon. » tu vois. Et puis alors moi j'ai ah bon, ah bon. Et puis alors moi j'avais du lait, mais je ne savais pas, c'était pas évident. Et vu que je n'avais pas de ressources à cette époque-là, j'avais pas forcément de. J'ai très vite abandonné. J'ai complètement abandonné. J'étais vraiment pas sereine. Moi, quand la petite, par exemple, allaitait, je ne savais absolument pas combien elle prenait de. Ah, j'étais dans les chiffres, tu vois. Il fallait que je sache combien elle mange, combien elle boit, pour savoir comment elle allait. J'étais très dans la mesure. Il fallait. À la maternité, de toute façon, on te le dit. Il faut la réveiller toutes les 3 heures. Donc, tu étais déjà dans les chiffres. Toutes les 3 heures, tu as une feuille où tu dois cocher quand est-ce qu'elle fait pipi, caca, quand elle. Moi, je dis, oh là là, disons que c'est. Il faut noter, c'est des calculs. Et moi, vu qu'elle avait un petit poids, donc voilà, elle n'était pas préma du tout, elle avait un petit poids. Donc il fallait que je fasse attention à ce qu'elle mange. Et moi, quand j'allaitais, j'étais pas sereine du tout, parce que je ne savais pas combien elle prenait. Donc j'ai vite pris un tire-lait. J'ai tiré mon lait pour savoir. Et je mettais dans un biberon pour savoir vraiment la quantité qu'elle prenait. Et puis, voilà, puis ça m'épuisait plus qu'autre chose. C'était pas quelque chose. Voilà, ça me faisait mal. C'était. J'ai
Ouais, le
quitté
tir
ça.
à l'allaitement, c'est compliqué. Ouais.
Ah ouais. Ouais,
Et
c'est
puis en plus,
compliqué.
t'as même pas la récompense naturelle des hormones qui se déclenchent, quoi.
Non, pas du tout. Donc, tu vois, moi, c'était plus contraignant qu'autre chose.
Et ça, c'était il y
Alors que
a 11 ans,
maintenant, je te
quoi.
dirais. Mais ouais, il y a 11 ans. Alors, c'est pas si vieux, finalement. Et maintenant, quand je regarde ce que j'ai fait il y a 11 ans, je me dis, oh là là, punaise. J'aurais dû quand même me secouer un petit peu. C'était comme ça, on apprend.
Tout à fait, c'était 11 ans, il n'y avait pas les mêmes ressources, il n'y avait pas le même accès aux ressources non plus. Et puis
Exactement.
je pense que de toute façon, quand on devient parent, c'est un petit peu tous et toutes pareil, quoi. On fait comme on peut avec son âme.
Mais j'ai tout, pour le coup, j'ai toujours, même voilà, si j'ai fait, j'ai toujours fait au mieux. Tu vois, à chaque fois, je pensais faire au mieux. Et donc, j'ai fait au mieux à ce moment-là, tu vois. J'ai fait au mieux. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va regarder mes premiers pas de maman en me disant, oh, j'aurais pas dû faire ça. Ou je me sens pas coupable d'avoir fait ça, pas du tout. Parce que ma fille, elle a été aimée, élevée, elle a tout eu. Elle a tout eu. Donc, parce que ça, c'est des questions qui reviennent beaucoup. Voilà. Est-ce que je culpabilise pas, par exemple, d'avoir allaité longuement mes 2 derniers enfants, les avoir portés, avoir pris un congé parental, chose que je n'avais pas pris pour mes autres enfants. Moi, je finissais mon congé maternité, je retournais au travail. Et non, je culpabilise pas, parce qu'encore une fois, j'ai fait au mieux de ce que je pensais sur le moment et que personne n'en a pâti.
Ben oui, mais c'est exactement ça. Ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est l'amour et la bienveillance. On va oser dire ce mot,
Allez,
qui n'est
osons.
pas un grand mot, et la bienveillance qu'il y a tout autour de ça. Et comme quoi, on peut très bien parler d'amour et de bienveillance sans forcément parler de cododo,
De
de
maternage proximal,
voilà.
évidemment. Évidemment.
Certes, le maternage proximal. C'est une pratique qui a ses intérêts, mais qui n'empêche pas les sentiments d'amour
Bien
et de
évidemment que
bienveillance
non.
de se développer.
Il n'y a pas de, comment dire, de course à, ou de. Voilà, je suis de maternage proximal, tu n'en fais pas,
Ah
tu es
oui.
moins. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas
Ouais.
d'échelle
Ouais.
de.
De la mère parfaite.
Exactement, exactement. Non, non, ça, et ça, c'est ce qu'il faut aussi un peu déconstruire, parce qu'à un moment, sur les réseaux, c'était beaucoup ça, hein, tu sais. Il y a beaucoup, c'était un peu de l'escalade. Alors moi, je fais ça, puis j'ai rajouté ça. Et je peux comprendre que certains parents puissent se sentir perdus avec toutes les informations qu'il y a à droite à gauche. Donc, autant moi j'en avais pas, mais maintenant j'ai l'impression qu'on balance tout et puis on prêche un peu pour sa paroisse, alors que moi pas du tout, c'est loin de moi cette idée du tout. Moi c'est un cheminement que j'ai fait, moi en tant que Charlotte, voilà, voilà, à un moment donné. J'ai voulu essayer ça, ça m'a convenu, j'ai persisté. Il y a des choses qui m'ont plus convenu, j'ai arrêté. Et tu vois, tu jauges en fait, c'est ça, tu jauges, tu prends ce qu'il y a à prendre et il faut pas se forcer, il faut pas dire bah tiens, tout le monde fait ça. Parce qu'il y a des fois, ça semble être peut-être à la mode, où on en parle, avant on n'en parlait pas. Non, ça, il faut vraiment faire comme on le sent et si on ne se sent pas. Tu vois, je vais reprendre l'exemple de Marie Vittel-Bumbao qui n'a pas choisi de faire la DME parce qu'elle ne se sentait pas. J'ai trouvé ça génial. Il faut des personnes voilà, qui disent bah non, mais moi, je me sens pas sécure, je le fais pas. Moi, à un moment donné, je le sentais pas, je le sais pas.
C'est exactement ça, il faut penser à apprendre. Et ça, c'est quelque chose, souvent, je trouve qu'on oublie. Là, c'est un peu, bon, c'est un peu le pro de l'humain qui parle, mais c'est justement quelles ressources sont disponibles dans la personne. Tu vois, tu prends l'exemple de Marie de la DME.
Ouais.
La ressource pour qu'elle se sente en sécurité pour le faire, ça c'est pas là. Donc,
vous
ne pouvez même pas le faire. Ça n'empêchera pas que l'enfant sera aimé et
mais
ça
bien
empêchera...
sûr.
Ça n'empêchera pas plein de choses. Et ça, c'est important. Et je veux dire, sur la DME, moi, je me rappelle très, très bien. On a parlé avec Virginie dans l'épisode que j'ai fait sur le sujet, mais le premier repas. Alors, moi, j'ai voulu dépasser ça, tu vois. J'ai voulu dépasser
Ouais.
ça.
Mmh.
Mais parce que c'est ma personnalité, c'est ma mentalité, c'est comme
Ouais.
ça. Mais je me rappelle très bien du premier repas que j'ai fait, puisque ouais, le deuxième repas en DME, je l'ai fait tout seul avec la petite.
Mmh.
Voilà, il y avait eu plein de gags, tu sais, les gags réflexes là.
Ouais.
Je suis ressorti de là, je me rappelle très bien appeler ma compagne, elle me dit ça va, je dis non, ça va pas, et elle me dit mais tu veux continuer? Et je dis bah, d'un côté ça va pas, mais d'un autre côté j'ai vu que la petite s'est éclatée, donc j'ai envie de continuer quoi. Mais c'est parce que c'est aussi ma personnalité, tu vois, qui est comme ça, de vouloir pousser des limites, tu
Bien
vois.
sûr.
Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, c'est que il y a ce qui peut nous inspirer. Je n'ai pas utilisé le mot influencer.
Ouais, et
Est-ce
ben
qui
je
peut
te
nous
remercie pas le...
inspirer?
Ouais, exactement, ouais.
Est-ce qui peut nous inspirer? Et puis, est-ce qu'on est OK à faire ou pas? Et qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, là, ça ne va pas changer le fait qu'on sera de toute façon un bon parent pour notre enfant. Tu vois?
Le tout, c'est de faire les choses en pleine conscience. Tu sais pourquoi tu fais certaines choses, tu sais pourquoi tu les fais pas. Il faut se laisser aussi porter par cette maternité et puis s'écouter, beaucoup s'écouter. Et voilà, si on cherche des informations, on en trouvera. Et dans tous les cas, les parents, c'est comme les enfants, hein, ça apprend tous les jours et jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Ouais.
Ça, c'est quelque chose,
C'est pas un
c'est une phrase que
CDD,
j'adore. C'est une phrase que j'adore. C'est clair qu'on apprend tous les jours, quoi. C'est assez dingue. Et alors, comment ça s'est passé pour toi? Parce que, pour le coup, il y a 11 ans, il y a eu la première, et ensuite, il y a eu les suivants qui sont arrivés.
Ouais.
Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des déclics comme ça sur des sujets par étapes? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, tiens, ça me tente, ça me fait plaisir? Ou est-ce que c'est des conseils qui sont venus de l'extérieur? Ou est-ce que c'est un mélange de tout ça? Enfin voilà, comment ça s'est...
Alors, par exemple, je vais reprendre parce que c'est moi, le fait le plus marquant, ça a été l'allaitement. Si tu veux, ma première, voilà, j'étais pas très sereine, j'étais pas à l'aise, j'avais pas du tout la notion que c'est quelque chose qui pouvait être désagréable et faire mal. Moi, ça a été mon cas. Et j'ai pas été plus loin. Enfin, c'est pas pour moi, j'ai arrêté. Et si tu veux, quand j'ai eu ma deuxième, j'avais ce petit sentiment de. Ah, quand même, j'aimerais bien y arriver. Mais comme un petit challenge, tu vois, personnel. Attends, l'allaitement, je suis une femme, je suis une maman, j'ai un bébé, je devrais y arriver. Et la deuxième, c'est pareil. Alors, j'ai allaité à chaque fois un petit peu, en tout cas, sur à la maternité, à la tétée de bienvenue. Et puis, à la maison, j'ai continué, mais à chaque fois, il y a eu quelques petites embûches qui ont fait que ça a mis à mal mon allaitement. Par exemple, ma deuxième, elle prenait pas de poids à la sortie de la maternité, elle prenait pas de poids. Elle allait très très bien, mais elle prenait pas de poids. Et alors moi, tout de suite, si elle prend pas de poids, c'est que je la nourris mal. C'était, voilà, il n'y a pas d'autre solution, vu qu'elle n'avait pas d'autres soucis. Et je l'allaitais exclusivement, donc et je me suis dit, je vais la passer au mix. Je vais continuer à allaiter, mais à côté de ça, je vais faire des biberons. La sage-femme passe, elle prend pas de poids. Je dis, punaise, pourtant elle prend bien ses biberons, je comprends pas. Allez hop, j'arrête l'allaitement. Et je la passe qu'au biberon. Et là, elle prend pas de poids. Et ouais, et donc là, je pars un peu dans le tourbillon de ma fille a quelque chose, je ne sais pas ce qu'elle a, donc si tu veux l'allaitement, reste complètement à côté. Moi, ce que je veux, c'est savoir ce qu'elle a, donc je l'emmène à l'hôpital en disant, mais ils vont me jeter, quoi. Ma fille, elle a 15 jours, elle n'est pas malade, la seule chose qu'elle fait, c'est de ne pas prendre de poids. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'y aller pour rien. Je me rappelle d'être arrivée en m'excusant des formations professionnelles, tu vois. Et je suis désolée, mais je sais pas ce que je dois faire. Et en fait, très vite, il voit qu'elle a une pyélonéphrite. En fait, elle a une infection du rein. Et c'est un des signes, un des rares signes non visibles, parce que si la sage-femme n'avait pas insisté pour venir à la maison et la peser, je ne l'aurais jamais vue. Et parce que j'avais refusé la sage-femme, j'avais fait croire qu'à la sortie de la maternité, pour sortir plus vite, que j'allais prendre une sage-femme. En fait, j'ai appelé devant l'équipe et en fait, quand je suis arrivée à la maison, je l'ai annulée. Bah oui, forcément, j'avais un enfant, je savais quoi faire. Vraiment, à l'époque, des fois, bah ouais, c'est comme ça. Et en fait, cette sage-femme, elle a insisté. J'avais trouvé, je me dis, donc, elle abuse, elle me force et tout. Et j'ai dit oui. Et en fait, grâce à elle, parce qu'un bébé qui ne prend pas de poids, tu ne le vois pas à l'œil nu. Hein. Tu ne le vois pas du tout à l'œil nu. Et en fait, elle a été hospitalisée 15 jours. 15 jours, donc 15 jours où j'ai mon allaitement. J'ai pas eu la force de le redémarrer. Tu vois, on m'a bien fait comprendre que si je n'étais pas venue, la petite. Et là, j'ai pris une grosse claque, ouais. Ouais, une grosse claque. Et du coup, quand je suis tombée enceinte de mon troisième, je dis ok, lui je l'allaiterai et je lâcherai pas. Gros challenge. Et pas de bol pour moi. J'ai été déclenchée à J plus 5 et gros, gros, gros choc post-traumatique. Ça s'est très, 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 très mal passé. Ça a été une horreur et si tu veux, j'ai eu des complications jusqu'à un mois post-partum et la douleur horrible. Je ne pouvais pas m'occuper de mon bébé. On va dire pendant un mois, j'ai très peu pu m'occuper de mon fils. Et du coup, bah, l'allaitement, pareil. Hein. Je crois que j'ai dû tout donner pendant... Allez, je serais incapable de dire... Dans ma tête, comme ça, je te dirais 2-3 semaines, mais pas plus. J'ai dû... Et là, c'est la première fois où je l'ai vraiment vécu comme un échec. Et je me suis dit, en plus, c'est même pas de ma faute. Enfin, peut-être que j'aurais pu évidemment surmonter ça, mais je n'avais pas la force. Et du coup, pour ma quatrième, donc Jana, je me dis, là, rien ne pourra m'arrêter. Mais c'était vraiment une obsession. Rien ne pourra m'arrêter. Effectivement. Et j'ai allaité jusqu'à ces 22 mois, jusqu'à ce que je tombe enceinte de mon cinquième. Et mon cinquième, actuellement, va avoir 2 ans au mois d'avril. Il est toujours au sein. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un parcours. Tu vois, autant le premier, le deuxième, je n'avais pas vécu ça vraiment comme un échec. Troisième, un gros échec. Et il fallait que je réussisse par tous les moyens. Et voilà, je suis contente. C'est ma petite victoire. Et tout ce qui est portage, cododo, ça s'est mis à partir de mon troisième aussi. Cododo,
comment c'est arrivé
cododo, disons que, encore une fois, j'avais vraiment c'était très compliqué de me lever pour m'occuper de mon fils. Donc, le plus pratique pour moi, c'est de l'avoir à côté de moi tout le temps mon lit.
D'accord.
Donc, ça a commencé comme ça, par facilité. C'est toujours de la facilité pour mon cododo. Mais par facilité. Et on m'avait dit, tu vois, pour ma première, on m'avait dit, laisse-la un mois dans ta chambre, mais surtout pas dans ton lit, dans un landau. Et au bout d'un mois, mets-la tout de suite dans sa chambre. Et c'est chose que j'ai faite pour ma première. J'ai fait la même chose pour ma deuxième. Et pour mon cinquième, il est resté 5 mois dans mon lit. Et je ne sais pas pourquoi, au bout de 5 mois, je l'ai placé dans sa chambre. Je pense que ça lui convenait plus, et moi non plus. Je pense que... Et puis, ça s'est très bien passé. Et j'ai beaucoup aimé l'avoir auprès de moi. J'ai trouvé ça vraiment plus simple et je pense que ça me rassurait aussi finalement. Parce qu'on pense à l'enfant, mais bon, il y a aussi le parent. Enfin, moi, je sais que ça me rassurait d'avoir mon enfant à côté de moi. Et pour les suivants, cododo à fond, quoi. Et directement dans mon lit. Et puis le portage, ça s'est fait parce que j'avais des personnes autour de moi, notamment ma cousine, qui était à fond dans le portage, que je la voyais, et ça me donnait envie. Mais en me disant, mais de toute façon, je ne sais pas faire les nœuds, je serai nulle, il va tomber, ça va être super dangereux. Puis c'est, enfin, voilà, moi, comme ça, de faire des nœuds dans du tissu, je me disais, non, premièrement, j'y arriverai pas, et je ne trouve pas ça très sécuritaire. Enfin, voilà, tu sais. Et je trouvais ça génial chez les autres. Et puis à un moment, elle m'avait envoyé une écharpe en me disant, bah tiens, ton cadeau, essaye, je vais te montrer, machin. Alors au début, j'étais un petit peu gauche, tu vois, c'était un peu château branlant. Et j'ai vite trouvé l'intérêt. J'avais les mains libres, j'avais mon bébé sur moi. Et les sensations, enfin, j'ai tout de suite, alors pas tout de suite, c'est pas vrai, mais au fur et à mesure que je tentais les mises en portage, j'ai adoré, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait avec les autres? Je te jure.
Et ça, sur le portage, c'est la grande question que je me pose, moi, tu vois, parce que moi, j'avais pris un petit congé parental à l'arrivée de ma fille, et c'est vrai que si tu veux, bah, pour le coup, toutes les tâches ménagères du quotidien, tu les fais en portant, avec tes deux bras libres.
Ouais.
Et en plus, ça te permet de sortir, en tout cas pour ma fille, ça m'a permis de sortir le fameux combo aspirateur-portage qui était magique.
C'est radical, ça.
Tu vois, c'est un classique. Et en fait, je me disais... en fait, je me suis toujours demandé... Tu vois, je me suis pas demandé pourquoi je portais. Je me suis toujours demandé, mais comment ils font les autres pour faire leur ménage, quoi? Comment ils font? À tel point, ça doit être chiant, tu vois.
Ouais, ouais.
Non, mais c'est vrai, c'est vraiment des questions que je me suis posées.
Même pour sortir, tu vois, t'as pas besoin de sortir avec un matériel.
Ah ouais, non.
T'as juste un morceau de tissu, t'as ton enfant. Puis alors, quand t'allaites, je te raconte pas, t'as même pas de bite, t'as même. Hey, tu vas comme ça.
Non, mais ça, c'est vrai, tu vois, par exemple, aller à la plage avec un gosse. Alors, parce que nous, j'habite à Bordeaux, donc la plage n'est pas très, très loin. Mais aller à la plage avec l'allaitement et le portage, c'est clair que tu pars léger, quoi, tu vois. Et ouais. Ça, c'est vrai que c'est une révolution. Et est-ce que toi, pour le coup, c'est vraiment quelque chose en termes de vraiment niveau, tu vois, pratique, hein, pragmatique,
ouais.
Est-ce que entre ce que tu as connu avec tes deux premiers et justement l'arrivée un petit peu de l'allaitement, du portage, tu vois, est-ce que niveau vie pratique, c'est quelque chose qui t'a aidé dans ta vie de mère, surtout qu'en plus, tu avais d'autres enfants à gérer à côté maintenant?
Ah bah oui, oui. Alors au niveau pratique, logistique, enfin, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses dont je n'avais pas besoin en fait finalement. Mm-hmm. Parce qu'au début, tu fais des listes de maternité, tu dis alors il me faut un chauve biberon, il me faut un stérilisateur, je te jure j'avais tout ça. Hein. Et je crois que j'ai jamais stérilisé, enfin petit au début mes biberons, mais après j'ai très vite lâché l'affaire. Et puis après. Ah non, j'ai eu énormément de choses. J'ai eu un parc. J'ai eu un parc. Je mettais ma fille dans le parc. Je peux même pas dire que c'était pour la mettre en sécurité de mes autres enfants. Je n'en avais pas d'autres. Donc, tu vois, c'était vraiment... je la mettais dans le parc. Mais parce que j'ai toujours... Tu sais, moi, la vision que j'avais des parents, c'est la nôtre. C'est celle de mes parents. C'est celle de l'autre génération. Et moi, on a toujours eu des parcs, tu vois. Et moi, je trouve ça génial. Enfin, les enfants s'éclatent hein, dans les parcs. Mais ça prenait une place. J'étais dans un petit appartement. Ça prenait une place monstre. Donc, j'accumulais les jouets. Donc, ça, je l'ai vite enlevé. J'ai eu un... Comment ça s'appelle? Un Yupala, un trotteur.
Ah oui.
J'ai eu ça.
Mais bien sûr, mais parce que...
Et c'est quelque chose que j'avais demandé, et c'était sur la liste. Le premier porte-bébé, je te montre même pas ce que j'avais eu. C'était... Mais pareil, mais à chaque fois, j'ai fait les choses en mon âme et conscience. C'était des choses... Et au jour d'aujourd'hui, bah, tu vois, j'en ai plus. Alors premièrement, ça me prend beaucoup moins de place. Et puis je m'aperçois que j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, j'ai besoin de très peu de choses finalement.
Non, mais complètement.
Alors, par contre, j'ai toujours une poussette, parce que ça a toujours été très pratique. Moi, quand tu dis, j'ai 5 enfants, donc en fait, mon bébé, on va dire que la priorité, c'est le plus petit, c'est vrai que je le porte en écharpe, mais le plus grand, entre guillemets, qui n'était pas très très grand, je le mettais en poussette quand c'est très pratique aussi, hein, quand je devais faire des petites balades et tout ça. Bon, j'ai une belle poussette d'ailleurs. Donc, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais. Et puis mes autres enfants adoraient, parce que c'est aussi un peu frustrant pour eux, tu sais, ils voulaient tellement pousser leur petit frère ou leur petite sœur tu sais, pendant les balades, c'était sympa aussi.
Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être chouette, de voir les plus grands s'occuper des plus petits, tu vois, c'est,
ah ouais.
c'est vraiment quelque chose, moi, que j'apprécie de voir dans les fratries de nos amis, et notamment ceux quand il y a des enfants qui ont, tu vois, 8, 9, 10, 11 ans,
ouais.
Tu vois, qui sont en âge de vraiment prendre en charge presque certaines
ouais,
tâches.
Ouais, ouais.
C'est quelque chose d'assez beau à regarder, je pense.
Ah, c'est... Ah, plus d'une fois, j'ai eu les larmes aux yeux. En disant, maman, je vais le faire dormir. Ou alors, des fois, elle va prendre le petit, puis elle va l'habiller. Elle va dire, regarde comment je l'ai mis. J'ai mis son petit t-shirt, il est trop beau comme ça. Et ouais... Des fois, ils vont spontanément dire « Tu viens, on va aller prendre le bain. » Alors, lui, tout content d'aller prendre le bain avec eux. Et ouais, c'est... Tu te dis « Ouais, ok, c'est moi qui ai fait ça. » C'est... Ouais, ouais, c'est super beau. Après, attention, hein, y a des chamailleries. Ça reste des enfants. Faut pas croire que chez moi, c'est la... c'est Walnut Grove, tu sais. C'est pas les Ingalls, hein.
Ça, justement, c'est un sujet qui me questionne. Parce que nous, pour l'instant, on n'a qu'un seul enfant.
Ouais.
Et c'est vrai que, tu vois, on se parlait tout à l'heure très brièvement de bienveillance.
Mmh.
Et de ce que je constate, c'est que les principes, entre guillemets, de la bienveillance, alors, pour des parents qui pourraient se mettre des idéaux extrêmement élevés, par exemple.
Mm.
Ce sont des choses qui volent assez vite en éclats, notamment quand l'enfant va grandir et va atteindre un âge un petit peu, où il va savoir s'opposer de manière un petit peu plus conséquente, et aussi à l'arrivée des fratries, quoi. C'est le moment où, un petit peu, on peut se confronter à une certaine réalité des relations humaines. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, cette arrivée de petits frères, de petites sœurs, comment ça s'est passé ?
Par rapport à mes enfants, comment
ouais.
ils l'ont vécu, eux. Écoute, donc, on va dire, donc, ma première, quand elle a eu sa petite sœur, je tombe enceinte, ma grande avait 7 mois. Donc, en fait, j'ai eu deux bébés à la
ah,
maison.
Ah ouais ?
Ouais. Bah ouais,
ah
et c'est
ouais.
Et c'est pas ni un retour de couche ni non, je voulais de rapprocher, et quand je pense que c'était conscient et tout ça, je dis mais à quel moment je me suis dit que ça allait être faisable. Je sais pas. Et du coup, et puis donc ils ont 17 mois d'écart, 16 mois et demi quoi. Et donc voilà, j'avais deux bébés à la maison, donc si tu veux, ça a été c'était speed, parce que
ouais,
voilà,
ouais.
C'est une organisation pas simple. Alors, ce qui était moins simple, c'était plutôt ma grossesse, dans le sens où j'en avais une qui marchait toujours pas. J'étais enceinte, j'étais avec la fatigue, les nausées, les machins. Donc, t'occuper d'un bébé, c'est hard. Et puis après, donc voilà, ma grande a compris qu'elle avait une petite sœur, mais bon, ça restait tout mignon, tout ça. Après, quand ils ont leur petit frère, elles étaient comme des folles. Bah, parce que c'était un petit frère en plus, elle connaissait que les filles. Donc, elle était super contente. Actuellement, là, pendant que je te parle, ma fille me regarde en me regardant. Si tu étais contente quand ton frère est arrivé, j'ai les vidéos. Du coup. Et après, par contre, ce qui s'est un tout petit peu plus compliqué, c'est quand je suis tombée enceinte de ma quatrième. J'ai ma deuxième fille qui l'a assez mal vécu. Enfin, elle est assez cash, hein, elle me l'a dit tout de suite. Elle m'a dit, j'en veux pas. Bah écoute, ça tombe mal, parce que bah, tu n'as pas le choix. Donc voilà, on a essayé de la rassurer, parce que moi, quand elle... les mots et les pensées qu'elle avait pour cette arrivée de bébé, c'était plutôt bah, de l'angoisse, la peur de devoir partager à nouveau sa maman, du coup avoir moins de temps avec moi et c'est une angoisse tout à fait légitime. Donc en fait, voilà, j'avais 9 mois pour la rassurer. Et finalement, donc un peu angoissant pour moi, parce que la vétie, je te prie, elle ne voulait pas de garçon, elle voulait une autre sœur. Merci, c'était une fille. Et du coup, quand leur sœur est née, tout s'est envolé. Tout de suite, elle a été intégrée. Il n'y a jamais eu de mise à l'écart, ni de ma part d'ailleurs. Je les ai toujours intégrés, les plus grands, à ma maternité. C'est-à-dire que je ne les ai jamais mis dehors parce que j'allaitais. Je ne les ai jamais mis... j'avais des moments avec le bébé. J'en avais la nuit, j'en avais la journée. Quand il y en a une qui était à l'école, ils avaient chacun leur temps. Et ils comprenaient que quand il y avait un bébé ils ont tout de suite compris que forcément il y avait des besoins qui étaient plus évidents et plus prenants que les leurs, mais pas moins, pas plus importants. C'est ça que j'ai toujours un point d'honneur à dire. Ce n'est pas plus important que toi, mais sauf que si tu as soif, toi, tu peux aller chercher de l'eau, le bébé ne peut pas aller chercher. Ils ont tout de suite compris, tu sais. Et une fois qu'ils étaient rassurés, ça a très bien fonctionné. Et là, pour le coup, le cinquième, qui n'était absolument pas dans les projets de personne, c'était d'autant plus compliqué pour elle de dire non, elle m'a refait ça. C'était vraiment, mais elle dit c'est pas possible. Je me rappelle son premier mot, c'était c'est pas vrai, tu me fais une blague, mais avec de l'angoisse. Et là, je lui ai dit écoute, non. Et pareil, donc, et aujourd'hui, tout va bien. Et je lui ai fait promettre.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y en aurait plus d'autres.
Est-ce que tu es sûr?
Oui. Ouais.
Non, mais c'est ça qui est beau, c'est de voir arriver ses enfants dans la famille, de voir les liens aussi qui peuvent se tisser, tu vois, ouais. Que ce soit plus ou moins compliqué.
Ils ont des liens différents chacun. Ils ont vraiment les deux grandes sont très 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 proches. D'ailleurs, elles dorment ensemble. Ils ont chacun leur chambre, mais en fait, elles dorment dans la même chambre, parfois dans le même lit.
D'accord.
Et il faut qu'elles soient tout le temps ensemble, vraiment. Et après, les autres, c'est un peu comme des groupes, ça se greffe. Après, ouais, t'es plus ma sœur. Et puis, ça, c'est beau. C'est animé.
Et comment tu fais, toi, niveau patience? Parce qu'on n'est pas sur Instagram, on sait que...
Ouais.
Enfin, quand je dis ça, on n'est pas sur Instagram. Je tiens à souligner que ton compte ne vend pas du rêve, clairement. C'est vraiment juste pour l'expression.
Oui, bien sûr.
On n'est pas dans la perfection voulue par Instagram.
Non. Et
comment ça se
défend.
Passe niveau, niveau patience et niveau énergie, quoi, parce que ça a l'air. Enfin, moi, je m'imagine ça comme
un marathon.
Waouh, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Ouais.
Alors, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que j'ai 5 enfants, j'ai pas 5 bébés. Tu vois,
ouais.
Donc en fait, j'ai quand même des enfants qui sont assez autonomes, donc qui ont toujours besoin de moi évidemment. Donc je suis toujours là, mais j'ai quand même une grosse part d'autonomie chez mes enfants. Et ma patience, comme je pense tout à chacun, a ses limites. Et je ne suis pas maître zen. Et oui, je suis une maman qui. Alors je pourrais me trouver mille et une raisons. Hein. La fatigue, le temps, la pluie, enfin, tu sais, mille et une raisons, mais je suis une maman qui va perdre patience, qui va crier, parce que, je ne sais pas, parce que ça fait 10 fois que je demande de mettre ses chaussures, ou ça fait 10 fois que je marche sur le même jouet que j'ai posé dans l'escalier en espérant que quelqu'un monte sans enjamber la marche. Et voilà, non, c'est... Et puis, tout de suite après, bon, ben voilà, c'est quelque chose de ponctuel, ça redescend, on va passer à autre chose, et puis, franchement, je... Forcément, c'est... Et puis les enfants, c'est pareil. Hein. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a appris. Plus ça va, moins je m'énerve, on va dire, parce que avant, je prenais un petit peu... Tout était grave, en fait. Si... ma table n'était pas débarrassée, tu vois, une fois que le petit déjeuner était, c'était grave. Si la chambre n'était pas rangée, ah, c'était grave. Enfin, quand je te dis c'était grave, c'est quelque chose qu'il fallait que ça soit fait. Mmh. Alors que maintenant, non, c'est bon, c'est pas grave. Et c'est vrai que j'arrive vraiment à ce fameux lâcher prise. Alors, de temps en temps, ça, évidemment, c'est pas tout le temps, mais de plus en plus, j'arrive avoir ce lâcher prise et ça fait du bien à tout le monde. Parce que, ouais, non, c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. La table, si elle n'est pas débarrassée, c'est bon, je sais pas, un chronomètre, elle sera débarrassée, c'est pas grave. Et cette phrase de c'est pas grave, ça m'a un peu sauvée dans mon mental, quoi, dans ma santé mentale, on va dire. Parce que très vite, tu peux devenir exécrable et puis ne plus vivre de bons moments, en fait. Ça peut être très pesant d'être mère, d'autant plus mère au foyer. Alors moi, j'étais 2 ans en congé parental. C'est difficile, hein. Je pense que peu de gens qui ne le vivent pas peuvent s'imaginer à quel point c'est difficile de rester à la maison, de refaire toujours les mêmes gestes et puis de pas forcément, moi, à un moment donné, c'était ça, je me sentais plus forcément utile. Voilà, je faisais mes tâches comme ça. Mais ouais, c'est pas grave, ça m'a beaucoup aidé.
Ce côté, je faisais mes tâches pendant le congé parental, c'est quelque chose qui m'interpelle. Est-ce qu'à côté, enfin, y a une partie de confinement sur le dernier, certes,
Ouais.
Mais est-ce que justement le fait d'être, alors je te demande un peu le contexte, mais
Ouais.
est-ce que tu étais à la maison mais isolé? Est-ce que tu voyais du monde? Est-ce que tu sortais pour autre chose que faire les courses, hein?
Ouais.
Est-ce
Alors, je ne
que...
fais pas les courses. C'est mon
D'accord.
mari qui les fait.
Très bien. Comme moi d'ailleurs. Ben est-ce que tu sortais pour le coup, pour prendre l'air, pour voir du monde? Parce que voilà, je te demande ça parce que l'isolement, c'est apparemment un
Ouais.
gros sujet qui pose problème pour les personnes qui restent au foyer.
Pendant mon dernier congé parental, donc je te dis, j'ai pris à peu près 2 ans, je me suis sentie seule. Mais je me suis sentie seule. Alors, je suis sortie quelques fois. Je sors pas outrance, hein, mais je suis sortie quelques fois. Mais ça restait très ponctuel. Mais sinon, ouais, je me sentais très seule. Vraiment, ce manque de lien social a été à certains moments très difficile à vivre. Toujours en mesurant la chance que j'avais de pouvoir justement avoir ce congé parental et avoir le droit d'y avoir accès. Et donc, si tu veux, moi, je suis le genre de personne qui, quand je trouve que chez moi ça va pas, par exemple, vraiment, hein, c'est des fois j'avais des. Alors, j'étais pas en dépression du tout, mais j'avais des états là de down, quoi, où ça allait pas, mais je ne savais pas forcément l'expliquer, surtout. Je me sentais absolument pas légitime de me plaindre, tu vois. Je me dis, attends, c'est bon, c'est pas parce que, entre guillemets, on me calcule plus, bah, mes collègues continuent leur travail, elles parlent de mon groupe WhatsApp, donc ils parlaient entre eux des trucs qui se passaient. Mais moi, je les vivais pas, donc, tu vois, je le vivais pas terriblement. Mais voilà, c'est quelque chose que je gardais pour moi. Et ouais, j'ai très mal vécu à un moment donné. Mais à côté de ça, hop, je me suis eu la chance, j'avais mon fils avec moi, j'avais le temps pour mes enfants, j'étais vraiment à 100% avec eux. Et ce qui me sauvait, entre guillemets, c'est que j'avais une deadline, je savais que j'allais reprendre mon activité professionnelle, je savais, donc il fallait absolument que je mesure la chance que j'avais et que je profite à fond de ce laps de temps parce que c'était quelque chose qui n'allait pas perdurer. Donc,
Il
mais
fallait
ouais,
tenir.
il fallait tenir, ouais. Et je sais, aujourd'hui, je peux le dire, je pense que je sais que je ne pourrais pas, je ne suis pas de celles qui pourraient rester, tu vois, j'aurais pas pu lâcher mon travail et rester à la maison tout le temps.
Est-ce que tu trouves que ce serait juste de dire qu'il y a une partie de toi qui s'est un peu sacrifié sur ce congé parental.
Non, parce que c'était vrai.
Il y a des questions, il y a des questions difficiles, hein.
Non, mais ouais, non, mais je. Alors, un sacrifice. Ouais. En fait, je me suis absolument. Alors, ça a été vraiment un vrai choix de ma part. Ça a été un vrai choix de ma part. Évidemment. Alors, quand je te parle d'un vrai choix de ma part, à chaque fois, hein, c'est. J'en parle avec mon mari, hein, c'est des discussions qu'on a en amont. Je lui dis, voilà, j'aimerais m'arrêter. Ben oui, il n'y a pas de problème. Ah ben, j'aimerais aussi reprendre le travail, t'es sûr. Enfin, voilà, c'est des discussions qu'on a ensemble. Donc, à chaque fois, c'est moi qui étais décisionnaire. Et oui, alors, je ne veux pas qu'on comprenne que j'ai regretté m'arrêter 2 ans et m'occuper de mon fils, parce que ça n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas le fait de m'occuper de mon fils, hein, qui m'a évidemment... qui m'a perturbée, mais j'ai l'impression d'être enfermée, voilà, et dans un rôle, et j'avais du mal à m'en sortir. C'est très particulier, en fait, et c'est vraiment propre à chacun, c'est pas toutes les mères au foyer qui pensent comme ça ou qui le vivent comme ça, Dieu merci, mais ouais, il fallait que je reprenne une activité, il fallait que je voie du monde, il fallait que je sorte. Mais quand je dis je sorte, c'est pas forcément aller bouger sur le dance floor, hein, non. C'est ne serait-ce que voilà, d'aller au travail, d'être dans ma voiture, toute seule dans ma voiture. Je sais que les premiers moments où je sortais sans enfant et que j'étais dans ma voiture, mais alors cette sensation de liberté qui me parcourait, je pouvais mettre le son, c'était... Et encore une fois, je précise, hein, ça n'a rien à voir. J'ai pas envie qu'on me dise, ah oui, si c'est comme ça, t'as qu'à pas faire d'enfant. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est pas de m'occuper de mon fils. C'est le contexte. Après, effectivement, le contexte qui s'est greffé, le contexte du confinement, ça a été très, très particulier et très pesant, très, mais pour tout le monde. Hein. Et encore aujourd'hui, hein, le contexte fait que c'est assez particulier.
Tout à fait. Après, tu vois, sur le sujet de se plaindre ou pas se plaindre, encore une fois, c'est parce que je reste... Alors, il y a deux choses. Le premier point, c'est que... Mais je te remercie d'avoir prononcé cette phrase, de dire « je veux pas, je voudrais pas qu'on dise « c'est ton choix, donc tu ne dois pas te plaindre, donc tout doit être merveilleux », parce que c'est de ce que je lis... par rapport à la maternité, parce que moi, je n'ai pas vécu de maternité, mais de ce que j'ai lu, et notamment sur des comptes militants, c'est un petit peu ce qui est attendu des mères, quoi. T'as fait le choix de rester chez toi, mais bien, tu ne dois pas te plaindre. Ouais. Sauf que la réalité, et c'est d'ailleurs ce qui est exprimé dans le rapport des 1000 premiers jours qui a été remis en septembre dernier au gouvernement, c'est que dans la réalité, il y a quand même un souhait de rester avec ses enfants, et c'est des moments super, mais qu'il y a aussi une sensation d'isolement, socialement parlant, et que il faut trouver des solutions sociales pour y répondre. Tu vois, dans d'autres pays, il y a des communautés qui se font, en fait, quand tu deviens parent, près de chez toi. D'ailleurs, tu es assigné, hein, c'est des choses qui sont obligatoires, hein, notamment en Norvège, où tu rencontres d'autres parents, où tu peux laisser ton enfant, justement, pour faire ton tour en voiture tranquille, tu vois, pour prendre un instant pour toi. Ce sont des choses qui sont totalement OK, c'est-à-dire, tu peux et faire le choix de rester à la maison de t'occuper de ton enfant et comprendre que pour la santé mentale d'un humain, personne n'est fait pour rester seul avec ses enfants, enfin avec des enfants en permanence. Il faut voir des adultes, d'autres adultes. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont démontrées, si tu veux. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté pression, je trouve, des fois, notamment sur les réseaux, où soit, en fait, tu as fait un choix. Ben ça doit être 100% du temps. Voilà, 100% du temps, tu dois être sur ce choix. Tu dois jamais, jamais, jamais le regretter. Sauf que la vie, c'est un petit peu plus compliqué, quoi.
Ouais, et puis ma famille n'est pas ici. Alors, ma sœur est pas loin, mais bon, pareil, entre guillemets, elle a sa vie, son travail, elle a son enfant. Mais ma mère, elle est à Bordeaux. Donc, du coup, tu sais, voilà, j'avais pas de famille proche qui pouvait vraiment venir. Et puis, je sais pas si tu as suivi un petit peu, mais bon, ça n'a pas été 2 ans. J'ai vécu un deuil.
Oui.
Voilà, pendant ces 2 ans, j'ai perdu mon papa. Mmh. Et plus, toi, après, ça a été compliqué pour tout, en fait. Tout s'est enchaîné. Et puis après, il y a eu le Covid, les confinements et forcément, c'est pas, tu vois, c'est une période, c'est dur parce que c'est hyper, hyper ambivalent, tu vois. C'était une merveilleuse période parce que en 2019, je suis mon fils, je me suis occupée de lui et j'ai adoré ça, tu vois. Et à côté de ça, ça a été aussi la pire des périodes de ma vie, donc c'est hyper ambivalent. Et je me suis sentie hyper isolée. Autant quand j'avais remarqué ça, attends, je cherche mes noms. Avec
Attends-toi.
mes sauts de grossesse, c'est vrai que tu vois, quand tu es enceinte, il y a beaucoup de monde autour de toi, tu vois, notamment pour les premières fois. Tu as beaucoup de monde autour de toi. À la naissance, c'est pareil, tu as beaucoup de monde autour de toi. Et puis à un moment donné, quand tu as accouché, quand tout le monde a vu le bébé finalement, tu te retrouves avec ton bébé et l'intérêt qu'on avait pour toi, il s'en va et c'est un peu le creux de la vague. Il y a des fois, tu te sens un petit peu seule, alors que c'est là que tu aurais besoin finalement de voir des gens et peut-être pas forcément tout de suite quand tu as accouché, tu vois. Et si tu veux, moi, pour ma dernière grossesse, j'ai l'impression que bah, j'ai encore un enfant, il n'y a rien de nouveau, donc beaucoup moins intéressant. Alors, je ne disais pas que j'étais intéressante du tout, mais là, pour le coup, j'ai ressenti que beaucoup plus de solitude que j'en ai pour les autres. Tu vois?
Ouais, tout à
Et la
fait. Ouais.
solitude, c'est quelque chose de très dur à vivre quand même. Et puis, je pense que c'est pas quelque chose que je montre beaucoup parce que c'est vrai que quand je montre, j'aime bien montrer, tu vois, souriante, comme tu vois un petit peu sur le réseau. La solitude, c'est quelque chose qui, je pense que c'est la chose qui me fait le plus flipper au monde.
D'accord.
C'est vraiment ma hantise et c'est la chose ouais, c'est mon angoisse, quoi. C'est mon angoisse, c'est ma phobie, c'est d'être seule. Alors, à côté de ça, je ne suis pas non plus la personne qui va prendre son téléphone pour appeler ou pour envoyer des messages. Voilà. Mais ouais, je me sentis hyper seule. Et encore une fois, je vais revenir 2 secondes sur l'annonce du décès de mon papa. Si tu veux, là, tout de suite, effectivement, les gens prennent leur téléphone, tu reçois du monde et ça te fait du bien. Et à un moment, bah, tout le monde repart. Et tu te retrouves encore plus seul. T'as plein d'idées, de trucs qui te viennent en tête et t'es vraiment toute seule et t'as peur d'embêter les gens. Moi, je sais que moi, je n'ai pas envie de. J'ai l'impression d'embêter les gens avec mes problèmes et puis je suis pas la seule à avoir des problèmes. Je veux dire, j'ai pas envie de rajouter des problèmes aux autres. Donc en fait, je garde tout pour moi et je me renferme dans cette solitude en fait. C'est un peu un cercle vicieux. Plus tu te sens seul, plus tu t'isoles. Plus tu t'isoles, bah, moins forcément les gens. T'es un peu hermétique, même si tu rêverais que quelqu'un arrive et te comprennent, mais ça s'est pas passé comme ça, et que voilà, j'ai eu beaucoup de monde d'un coup, et tout le monde est parti. Sauf que moi, j'étais encore là avec ma peine, tu vois, et ça continue encore au jour d'aujourd'hui. Mais il n'y a plus personne. Et là, c'est pour ça qu'il a fallu que je reprenne le travail, parce que moi, j'aide, je suis là pour quelque chose, et j'en te remercie. Ce que tu fais, c'est bête, hein. Mais rien que ça, merci, quoi. Ça te fait du bien. Et tu vois des gens, tu vois du monde. Et moi, j'ai besoin de ça.
Je rappelle que tu es infirmière.
Oui.
C'est vrai que pour le coup, c'est un métier où tu sens ton utilité au quotidien vis-à-vis des gens et où tu es très entouré aussi, puisque tu travailles en équipe.
Oui.
Parce que moi, de ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est que justement, cette activité, c'est professionnelle, donc à l'extérieur du foyer, c'est aussi ce qui permet de. C'est aussi quelque chose de ressourçant, quoi. Je m'imagine bien que
Ouais.
c'est pas un métier facile,
Oui, mais oui, non, mais
mais qui fait du bien, quoi.
tu. Ouais, exactement. Exactement. Quand j'y vais, je n'ai jamais reculé. Je suis contente d'y aller. Je suis aussi contente de finir, hein, de rentrer chez moi. Mais non, non, c'est quelque chose dont j'ai besoin et qui est aujourd'hui essentiel, qui fait partie de ma vie et je peux pas m'en passer, quoi.
Ça contribue à ton équilibre pour le coup.
Ah, complètement.
Ouais.
Complètement. Complètement. Et je pense que voilà, quand je pense que j'avais cette espèce de déséquilibre, j'ai pas su à chaque fois trouver mon équilibre quand j'avais mon activité en suspens.
Ouais. Bah, c'est vrai que deux ans de congé parental, c'est beau. Mais c'est vrai que selon le contexte, et puis avec le contexte que tu as connu, c'est
oui.
Clairement
ouais.
Pas évident.
Tu vois. Ça me laisse un peu un goût amer.
Ouais. c'est pas évident, mais c'est vrai que ce sont des épreuves de la vie qui sont rudes, quoi.
Ouais.
Je te remercie d'avoir raconté ça et tenu ce propos, parce que je pense que c'est des propos qui vont résonner chez beaucoup de mères, de ce que j'ai lu, entendu et compris. Je fais toujours attention parce que moi, j'ai pas connu la maternité. Donc, tu vois, j'ai un rapport qui est différent. Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Ce que tu évoquais sur le fait que toute l'attention est portée sur nous pendant 9 mois, notamment les premières grossesses.
Ouais.
Et tout à coup, tout s'arrête, quoi. Et ça c'est très dur. C'est un vrai creux de la vague, c'est clair. Et on va changer de sujet pour le coup. On va passer à une autre question.
Okay.
Et ton mari, lui?
Oui, oui.
Comment il a vécu tout ça, ces 5 enfants, notamment celui qui a fait pop alors qu'on savait pas qu'il allait arriver.
Ah oui, ça a fait un vrai pop, ouais, comme tu dis. ouais, je pense que ni lui ni moi n'étions prêts. Lui, beaucoup moins que moi, dans le sens où bah, forcément, c'était moi qui étais enceinte. Donc, tout de suite, il y a quelque chose qui se fait tout instantanément. On a moins le temps de réfléchir parce que pour moi, il n'y avait pas à réfléchir. Le bébé était là, il était là. Et c'était autre chose. C'était des questions. Là, à un moment donné, ça a été un petit peu tendu parce que ça me faisait peur qu'il se pose toutes ces questions. Je ne comprenais pas que pour le coup, on n'aille plus dans le même sens. Et ça n'a pas été évident. Je pense que pour lui, il a fallu qu'il digère un petit peu la chose. Et puis, quand on y pense maintenant, on se dit, lui, il me certifie que, mais jamais, j'étais contente tout de suite, non. et du coup, ouais, tout, c'était une grossesse que j'ai très bien vécue. Une fois que, donc, je pense que c'était le premier mois qui était un peu compliqué. Il va falloir qu'on s'organise. Voilà, c'est comment on va faire. On était vraiment pas prêts. Et puis finalement, on s'est laissé aller. Et c'est vrai que à chaque fois, on se dit 9 mois, c'est long, mais 9 mois, c'est quand même assez nécessaire des fois pour. pour appréhender la vie future. Et moi, j'ai voulu lui faire un cadeau à mon mari pour cette grossesse. Et j'ai souhaité ne pas connaître le sexe. C'est la première fois que je ne me demandais pas.
Ah ouais.
J'ai souhaité ne pas connaître le sexe de l'enfant. Et c'est parce que je voulais absolument qu'il le découvre avant moi. En fait, je voulais que c'est lui qui puisse... m'annoncer le sexe de l'enfant à la naissance, qu'il ait la primeur, étant donné que la mère, un petit peu, toutes les premières fois, les premiers coups dans le ventre, on ressent tout. Et voilà, je voulais que lui, il ait quelque chose d'assez exclusif et comme un cadeau. C'était un moment mais merveilleux. On ne savait pas si c'était un garçon ou une fille.
Jusqu'à
l'accouchement, ouais. Effectivement. Et on avait bien dit... à la sage-femme de surtout pas le dire. Et c'est lui, alors j'aime bien parce que j'ai eu beaucoup d'histoires, des parents qui me disaient, mais tu vas accoucher, vous n'allez même pas penser à regarder le sexe de l'enfant. Des fois, c'est au bout d'un quart d'heure, je me dis, ah mais oui, au fait, je sais pas, ça garde une fille. Moi, ça a duré 2 secondes. Le suspense, il a été vite révélé. Le petit, il est sorti et tout de suite, il a fait comme ça, tu sais, il a baissé sa tête pour regarder. Il a dit, il n'a pas dit c'est un fils, il a dit c'est un petit frère.
Ah, c'est beau ça.
Il a dit c'est un petit frère.
Ouais.
Et je n'avais pas de prénom de garçon, parce que dans ma tête, c'était une fille. Mais ouais, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable, ce moment de vraie découverte. J'ai tout découvert. Le jour de l'accouchement, j'ai tout découvert. J'ai trouvé ça mais génial, génial.
Non, c'est hyper beau comme histoire. Je suis un peu ému aussi d'entendre des choses comme ça. Mais notamment, si tu veux, le fait qu'il dise c'est un petit frère et pas un fils, parce que...
Il n'a pas dit c'est un fils, il a dit c'est un petit frère.
Voilà, oui. Tu vois, c'est parce que bon, tu connais ma sensibilité sur les sujets militants et je trouve ça très beau de voir un père qui pense comme ça en premier à la place de son enfant, de son fils,
oui.
Mais comme faisant partie d'une fratrie, d'un groupe, tu vois, et pas comme une espèce de descendance mâle, enfin voilà.
Donc ouais.
c'est je trouve ça très très beau, vraiment. Et c'est une belle, c'est une très belle histoire. Charlotte, t'es aussi sur les réseaux, sur un compte qui s'appelle Lalotte, qu'on peut suivre notamment sur Instagram,
oui.
et où tu parles de ton quotidien, de maman, avec encore une fois beaucoup de bienveillance, d'amour, mais aussi de nuances et de réalité d'un petit peu de la vie.
Ouais.
Comment ça se passe, toi ? Qu'est-ce que ça t'apporte ce compte Instagram, notamment au niveau des retours que tu peux avoir quand tu parles de toi, finalement ?
Moi, tu sais, j'attends rien de particulier d'Instagram, si ce n'est vraiment ce pourquoi je suis venue à la base, donc du partage, de l'échange, de l'information. Alors moi, je ne me prétends pas donner des informations, ce n'est pas du tout le but de mon compte. C'est effectivement, je montre un petit peu des bouts de ma vie, un peu de mon vécu, de mon réel. Je vais parler de choses qui me sont arrivées voilà, pour pouvoir donner peut-être des conseils sur ce que moi j'ai vécu et pourquoi pas aider les gens. Et ma plus belle récompense, c'est vraiment quand les gens m'envoient des messages pour me dire tu me fais déculpabiliser, merci, je me sens moins seule. Et c'est là que je me dis, mais c'est quand même assez hallucinant que les personnes aient besoin d'entendre des histoires complètement banales, qui vivent eux-mêmes à la maison, qui vivent exactement la même émotion que moi à ce moment-là, et se disent « Ok, je ne suis pas toute seule, donc forcément, je ne suis pas nulle, je n'ai pas besoin de culpabiliser parce que regarde, elle le sait, elle le vit, mais en fait, on est des centaines, des milliers, et pourtant, ce que je raconte, ce n'est pas incroyable, tu vois, je ne donne pas de tips, je donne absolument aucune potion magique, recette, miracle, non, je raconte juste une émotion, un moment de vie, quelque chose que j'ai vécu. Et tout de suite, les gens, certaines personnes se sentent mieux. Et je me dis, waouh. Alors, je ne sais pas pourquoi notre cerveau se conditionne à penser que forcément, on est moins bien que le voisin ou la maman de l'école, tu vois, qui fait les goûters maison tous les jours. On n'est pas moins bien, mais on a l'impression que tout roule beaucoup mieux chez les autres, que tout est beaucoup plus fluide, que tout est merveilleux et que chez nous, rien ne va. Et non, en fait. Il y a forcément des choses bien qui t'arrivent, des choses moins bien. Et c'est le cas de chez tout le monde. Et de devoir le dire en direct ou face cam pour que les gens puissent se déculpabiliser, eh je continuerai. Voilà. Tant que ça fera du bien aux gens et que ça me fera du bien aussi, hein, parce que c'est du donnant-donnant, c'est ça l'échange, c'est ça le partage, eh ben, je continuerai. Et je me dirais que je servirais au moins à quelque chose, même avec en étant la plus ordinaire possible. Voilà, on peut faire des choses extraordinaires.
Ah, mais merci d'avoir dit ça. Je pense que c'est important de le souligner. Et ça me fait penser à un autre truc. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, tu as fait une mise au point où tu as amené une réflexion justement sur le fait d'utiliser le mot influenceuse.
Je vais te parler de moi, comment je le perçois. Mmh.
Bien sûr.
J'ai l'impression que ça te met dans une case bon, super élégante, tu vois. Influenceuse, ça voudrait dire que moi, je suis l'influenceuse et donc mon audience, c'est-à-dire que les personnes qui me suivent sont non seulement influençables et ce sont mes influencés. Je pense pas qu'il y ait une personne qui aimerait dire... je dis le nom de quelqu'un qui me suit en disant « Ah oui, ça, c'est mon influencé. » T'imagines ? C'est assez péjoratif. Et moi, ce mot influenceuse, en tout cas en ce qui me concerne, je ne souhaite pas être influenceuse. Ou alors, nous le sommes tous. Ce n'est pas une question de nombre d'abonnés. Ou alors, il n'y a pas de souci. Influenceuse, mais à ce moment-là, toute personne sur Instagram, et encore même dans la vie, toute personne est influenceuse. Mais je préfère être inspirante. Non, je ne suis pas influenceuse. Je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. Et que ça soit quand je parle, quand je raconte mes histoires, ou que ça soit dans certaines collaborations ou partenariats, je ne suis absolument pas là pour faire ni de la vente, ni du chiffre, ni quoi que ce soit. Donc non, tant que les autres personnes ne seront pas les influencées, je ne serai pas l'influenceuse, ni une influenceuse.
Moi, tu m'inspires des danses avec ma fille, même si je les
Ah,
filme pas.
très
Voilà,
bien. Très bien.
notamment un sujet que je traite. Qu'est-ce que toi, maman, aujourd'hui, 11 ans après, 5 enfants, après tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire à toi il y a 11 ans?
Écoute-toi, crois en toi, t'es pas nul, et voilà, écoute-toi, fais-toi confiance un petit peu, ça te changera.
Ouais.
Ouais, et je pense que je pourrais me dire aujourd'hui aussi, pardon. Mais c'est vrai que quand tu manques pas d'expérience, parce que clairement t'en as pas, c'est vrai que tu écoutes beaucoup et tu dis pas forcément ils savent mieux que toi, alors que finalement, malgré que ton enfant tu le découvres, même dans la première minute, dis-toi que tu le connais mieux que quiconque, tu le comprendras mieux que quiconque, alors même si tu comprends pas un pleur. Tu dis, il a mangé, il a dormi, je ne comprends pas ce qu'il veut. C'est pas grave, c'est qu'il te veut toi. C'est. Voilà, écoute-toi, écoute ton enfant, écoute un peu moins les
Ouais,
autres.
j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Je pense que
Merci,
là,
Cédric.
on est au bout. À bientôt.
Ouais, à bientôt.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarcat Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.